Bonjour à toutes et à tous. Je bénis le Seigneur pour le moment de ce moment d'adoration, que le louange que nous avons eu. Nous allons prendre notre Bible dans l'Évangile de Luc, chapitre 15. Évangile de Luc, chapitre 15. On va lire à partir de verset 11 jusqu'à 32. Évangile de Luc, chapitre 15, on va lire à partir de verset 11 jusqu'à 32. La sœur nous a lu les premiers 10 versets, donc nous allons continuer à partir de verset 11. Il dit encore, un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qui l'envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il se dit, « Combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi, ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et le soulier au pied. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons, car mon fils que voici était mort, il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir. Or, le fils aîné était dans le champ. Lorsqu'il revient, et approcha de la maison, il a entendu la musique et les danses. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce que c'était. Le serviteur lui dit, « Ton frère est de retour, et parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé, ton père a tué le veau gras. » Il se mit en colère et il ne voulut pas entrer. Son père sortit et pria d'entrer. Verset 29, « Mais il répondit à son père, « Voici, il y a tant d'années que je te sers, sans avoir jamais transgressé tes ordres. Et jamais tu ne m'as donné un cheveu pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. Mon enfant, dit le père, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai, c'est à toi. Mais il fallait bien s'égailler et se réjouir parce que ton frère, que voici, était mort, qu'il est revenu à la vie parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. » Donc, nous allons rester avec la même pensée que le Père nous accueille. Ah, c'est Christ qui nous accueille, Dieu le Père nous accueille. Le contexte de la parabole du Fils prodigue est considéré. Le contexte d'un passage biblique nous aide souvent à mieux comprendre sa signification et c'est effectivement le cas de cette parabole. L'histoire que nous allons voir ce matin se trouve à partir du verset 11, mais le cadre est fourni dans Luc 15, 1 et 2, où nous trouvons les pharisiens et des scribes se moquant de Jésus pour avoir reçu et mangé avec les pécheurs. Ces chefs religieux juifs de l'époque de Jésus ne pensaient pas qu'il était approprié pour une personne pieuse interagir de cette manière avec ce qui était impie. Le verset nous dit que tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Et le pharisien et le scribe murmuraient, disant, « Cet homme accueillit des gens de mauvaise vie et mange avec eux. » Jésus, il accueillit toutes sortes de personnes. Imaginons s'il y a des parisiens et le scribe était dans cette salle, il devrait dire la même chose par rapport à nous. Nous étions des pécheurs, que nous sommes des enfants de Dieu aujourd'hui. Parfois, des principes importants sont repris dans la Bible pour mettre l'accent. Ce fut le cas lorsque Jésus a dit à Pierre trois fois de paître ses brebis. En réponse aux réprimandes des pharisiens et des scribes rapportées dans Luc 15, les deux premiers versets, Jésus a prononcé trois paraboles qui ont souligné sa réponse. La première parabole parlait d'un brebis perdu. Le verset 4 à 7. Dans cette histoire, dans la Bible, le peuple de Dieu est communément appelé brebis ou troupeau de Dieu. On peut lire en Matthieu 26, 31, Luc 12, 32. Vous ne prenez pas, c'est la référence. Les pasteurs sont exhortés à paître le troupeau de Dieu, n'est-ce pas? L'Église, c'est la bergerie. Donc, nous sommes le troupeau de Dieu. On peut voir en 1 Pierre 5, chapitre 5, verset 2. Et Jésus est appelé le berger souverain. Le berger souverain. Le but de la parabole est que Dieu désire amener ceux qui sont perdus. Donc Dieu, désire amener des pécheurs dans son bergerie, dans une relation avec lui, pour avoir une relation avec lui. Et il se réjouit quand il se repente. La deuxième parabole est celle d'une femme perdant l'une des 10 pièces d'argent. La femme allume une lampe et balaye sa maison. Et elle chercha soigneusement la pièce manquante. Après l'avoir trouvée, elle se réjouit aussi avec ses amis et ses voisines. Certains se sont demandés pourquoi on accordait une telle importance à la perte d'une seule pièce. Certains pensent que, probablement, le seul bijou que la pauvre dame avait en sa possession, et même si cette pièce perdue n'avait pas beaucoup de valeur, elle avait de la valeur pour elle. Deuxièmement, la pièce manquante faisait peut-être partie d'un bijou de mariage similaire à ce qu'une alliance représente aujourd'hui pour nous. Et la troisième, vous savez, ils mettaient sur le front les femmes de l'époque dans cette culture. Donc c'est possible que c'était une des pièces de cette bijou qu'ils portaient sur au front. La troisième parabole est l'objet de notre étude et de ce matin où le père a eu deux fils et le fils cadet s'éloigne volontairement du père à la recherche de plaisirs mondains. On va rester un peu sur cette parabole, c'est la troisième parabole. La parabole du fils prodigue ou le fils retrouvé ou le fils perdu ou l'enfant prodigue, mais est connu sur plusieurs appellations, selon la traduction, étant donné qu'à l'origine, les textes de la Bible n'étaient pas désignés par des sous-titres. Mais dans nos Bibles, on peut trouver le sous-titre, mais je ne sais pas pourquoi on appelle la parabole de fils prodigue. Et maintenant, on va voir un peu la similitude des paraboles de brebis perdues, la pièce perdue et du fils perdu. Notez le thème commun de trois paraboles, qu'il s'agisse d'un brebis perdu, d'une pièce perdue ou d'un fils perdu. Il y a la joie quand ce qui a été perdu est récupéré ou retrouvé. Il y a une grande joie quand il retrouve ce qui était perdu. Il y a aussi une progression intéressante dans ces paraboles d'un point de vue numérique. et en valeur. Non seulement il y a une progression mathématique, car la fraction perdue augmente d'une centième à un dixième, puis à la moitié du tout. Mais la valeur intrinsèque de la perte augmente dans une série correspondante. Et dans la première parabole, c'est un brebis perdu parmi le cent. Dans la deuxième parabole, c'est une pièce parmi les 10 pièces. Et dans la troisième parabole, il y a 50%. C'est moitié. Dans la première, c'était le brebis perdu, une perte qui pourrait bientôt être remplacée et qui serait bientôt oubliée. Dans la seconde, c'était une pièce perdue, ce qui, comme nous l'avons vu, signifiait la perte de ce qui était plus précieux que l'or. Même l'honneur et le caractère, tandis que dans le troisième, c'est un enfant perdu. Ce n'est pas un matériel, ce n'est pas un animal, mais un enfant qui est perdu. Les trois paraboles de Luc 15 répondent également à la question soulevée par l'autorité juive de caractère et caractérisée par le frère aîné dans la troisième parabole. S'il était approprié pour Jésus d'aimer les pécheurs et même de se mêler avec eux, les paraboles montrent que Dieu aime tout le monde. Je pense que dans les lectures qu'on a eues ce matin, Jésus a aimé tout ce qui venait vers lui. Les aveugles, les malades, et les pécheurs, et il accueillit tout ce qui venait vers lui. Et sans faire de distinction, il se réjouit quand ils sont sauvés. Et nous devrions en faire autant. Quelle est la cause de la joie et des célébrations? Alors que beaucoup ont noté que la parabole du fils prodigue et les deux paraboles qui la précèdent dans Luc 15 pointent toutes vers l'amour de Dieu pour l'humanité. C'est l'amour de Dieu, on voit l'amour de Dieu pour l'humanité. Beaucoup ont manqué l'enseignement en eux qui est la base de la joie de la célébration de Dieu dans le ciel et dans le ciel. Regardez les versets 7 de chapitre 15. De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur au lieu de 99 qui ne repent pas. Verset 10. De même, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. Poursuivant le thème de la repentance, remarquez ce que le fils prodigue de retour a dit à son père. Le verset 21. Le fils lui dit, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Et la troisième parabole se termine par une célébration du retour du fils prodigue qui a été perdu et retrouvé. Et maintenant, nous allons voir la structure de cette parabole. La parabole peut être résumée ainsi. La demande prématurée du fils cadet de son héritage à son père. Regardez les versets 12. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir, et le père leur partagea son bien. » Un jour, l'enfant il vient vers son père, il demande sa part. Il voulait sa part plus que son père. Ça montre combien d'amour il avait pour son père. Il demanda sa part. De décision de partir, de prendre sa liberté. On peut voir dans le verset 13, peu de jours après, le plus jeune fils ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Donc, il vient vers son père, il demande sa part. Et pourquoi il voulait sa part? Pourquoi il voulait cet argent? Parce qu'il voulait aller loin de son père. Je pense que Quelque part, c'est, en tout cas, c'est mon histoire. Je voulais aller loin de tous ces gens que je connaissais quand j'étais jeune. Et pour vivre ma liberté, c'est tout, hein, pour vivre en liberté. Je pense qu'à certains moments de notre vie, on veut être libre. Libre de qui? Libre de Dieu? Libre de tout regard? Le partage de la fortune paternelle aux deux fils, et on voit ça dans la deuxième partie du verset 12, et le père leur partagea son bien. Le plus jeune, il demande le père de partager le bien. Le père, il partage le bien pour tous les deux. Mais dans l'Ancien Testament, je pense que dans le livre de Deutéronome, c'est écrit que l'aîné, il a une double portion. Donc, il va avoir deux tiers de ce qui appartenait à son père dans la partition. Et en tout cas, le plus jeune, qu'on appelle le fils prodigue, il a pris sa part, il est parti pour un pays éloigné, lointain, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Et il va aller s'établir dans un pays lointain, parti pour un pays éloigné. Vous savez, le pays lointain ne mesure pas par la distance. Mais je pense que dans la parabole, oui, physiquement, il est parti loin de son père. Mais ce n'est pas nécessairement la distance qui compte. Et avant même qu'il demande à son père, le fils prodigue, il était loin de son père. Il avait déjà été loin du cœur de son père. Il est parti, il était parti déjà loin. Et le pays lointain ne mesure pas par la distance. N'importe où un homme est loin de Dieu, le monde sans Dieu ou oubliant Dieu, partout où vous n'êtes pas en communion avec Dieu, votre vie est un pays lointain. Vous n'avez pas votre place là-bas. Et dès qu'on coupe la communion avec Dieu, on part dans un pays lointain. On est loin de Dieu. Et ce qui s'est passé dans la vie de cet homme, ils cherchaient tous les deux à se faire plaisir. Ils cherchaient tous les deux à se faire plaisir et l'essence même de pays lointain. Écoutez la phrase descriptive de ces deux fils. Le plus jeune, il dit à son père, le verset 12, hein, « Mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays, et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qui l'envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges qui mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Regardez l'aîné, le verset 28. Et quand on parle que parti loin de ce pays, mais l'aîné, il n'a pas quitté son père. À la fin de cette parabole, de cette histoire, on trouve que l'aîné, il était bien dans la maison de son père. Mais regardez où il était. Le verset 28, il s'est mis en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père, « Voici, il y a tant d'années que je te sers sans avoir jamais transgressé tes ordres. Et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. » Donc, il était déjà loin de son père. Donc, ce n'est pas la distance qui mesure à combien on peut être loin de notre Père céleste, combien on peut être loin de Dieu. Mais on peut être ici, on peut être à l'église chaque semaine, on peut être religieux, on peut faire nos devoirs chrétiens, mais pourtant, on va être éloigné de Dieu dans notre cœur. Nous avons tous été des fils prodigues. Nous étions tous été prodigues par rapport au don du Père. Nous avons tous reçu de lui. Pourtant, nous n'avons vécu comme si que Christ n'était jamais mort. Nous avons vécu avec nous-mêmes au centre, loin de la maison du Père. Regardez le psaume 139. Regardez ce que le psalmiste dit, le psalmiste David il dit. Psaume 139. Verset 7. Psaume 139, verset 7. « Où irai-je loin de ton esprit et où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu es là. Si je me couche au séjour des morts, te voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Si je dis, au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. » Donc, pour un enfant de Dieu, mais il pense qu'il peut éloigner de Dieu. Mais par rapport à Dieu, il ne peut jamais éloigner de lui. Nous ne pouvons jamais éloigner de lui. Lui, il a toujours ses yeux sur nous. On peut penser que je vais aller hors de tout regard de tout le monde. Mais il faut savoir que Dieu, il est en train de nous regarder. Peu importe où. Mais il était en train de vivre dans le débauche, hein, ce qu'on sait. Mais le grand frère, il a inventé des choses. C'est lui qui utilise le mot « il a gaspillé ton argent avec les prostituées ». Et Dieu n'a jamais enlevé son regard, ce fils prodigue. La vie de débauche, en allemand, il l'appelle Heilloses Leben, qui peut être traduit par une vie sans horizon, une vie sans salut, une vie sans Dieu et une vie sans espoir. Et il est parti dans un pays où il n'y a pas d'espoir pour être sauvé. Il est parti très loin. Et le verset 13, regardez le verset 13. Peu de jours après, le plus jeune fils ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Et dans le verset 14, on voit la misère de cet homme. Il a fait la folie. On voit la misère de cet homme. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays. Il commença à se trouver dans le besoin. Et il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qui l'envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Regardez quel état le fils prodigue il peut descendre, quelle profondeur il peut descendre. Quand on quitte la maison de le Père, naturellement, on peut descendre à n'importe quel niveau. Et vous savez, pour les Juifs, c'est un travail horrible, hein, de garder le pourceau, être en association avec des pourceaux, des porcs. C'est une abomination. Mais pour un Hébreu, c'était quelque chose de terrible pour aller garder le pourceau. Il a quitté son père, mais il demande à un étranger pour avoir quelque chose. Mais pourtant, dans la maison de père, il y avait toutes choses en abondance. Et il fait remplacer son père par un étranger. Le verset 15, il alla se mettre au service d'un habitant, un des habitants du pays qui envoya dans les champs pour garder ses pourceaux. Donc, quand on met au service du monde, on peut voir comment le monde peut nous traiter. Nous avons une place dans la maison du Père, mais quand on quitte la maison du Père, on peut voir comment il a donné le travail le plus abominable pour un juif. Et l'acceptation de boulot dégradant, être gardien du port, qui est l'envoyé dans ses champs, garder les pourceaux. Regardez le verset 14. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays. Vous pensez que c'est une coïncidence, la famine qui vient dans ce pays? Dans la parole, nous trouvons plusieurs fois la famine qui vient dans le pays, en Égypte, en Israël. Il y a eu des famines. Et n'est-ce pas Dieu qui dirige les fleuves qui peut irriguer les pays? Quand il touche un fleuve, le fleuve il passe une autre direction. Il peut créer la famine dans le pays. Ou il peut fermer la fenêtre du ciel pour complètement fermer, puisque la pluie ne tombe pas pendant 3 ans. Et notre Dieu, il est souverain, il est capable de faire les choses comme ça. Et c'est merveilleux de penser que Dieu peut parfois faire une telle chose pour une personne. Ce qu'il a fait, il a laissé les 99 brebis, il est parti chercher le seul brebis qui était perdu. Et ce fils prodigue, il se trouvait dans un pays lointain, et Dieu, il a créé, il a fait venir une famine dans ce pays. Et c'est une grâce de Dieu. Parfois, on peut avoir des difficultés et on ne voit pas la grâce de Dieu derrière toutes ces difficultés. Mais il va peut-être comprendre plus tard. Le souvenir de l'opulence de la maison de son père, verset 17, étant rentré en lui-même, il se dit, combien de mercenaires, combien d'esclaves, combien de serviteurs chez mon père ont du pain en abondance. Même les serviteurs, ils ont le pain en abondance dans la maison de mon père. Et moi, ici, je meurs de faim. Est-ce que cette pensée a flashé dans notre tête un moment dans notre vie quand nous avons été éloignés de Dieu? Le souvenir de la maison de notre Père, le souvenir de la table du Seigneur. Ici, je meurs de faim. La décision de rentrer à la maison, on trouve dans le verset 18, qui change le cours de cette histoire. Il dit, je me lèverai, j'irai vers mon père. Je me lèverai, j'irai vers mon père. S'il avait simplement eu de penser combien de mercenaires ils ont de pain en abondance chez mon père, c'est la nostalgie. Il peut rester dans le même lieu en train de penser tout ça. C'est de belles pensées. Mais l'histoire a changé quand ce jeune homme, il a dit que je me lèverai, j'irai vers mon père. Et parfois, il faut prendre la décision. Ça ne suffit pas d'avoir la belle pensée et d'avoir la nostalgie par rapport à l'Église à cette époque-là. On dit souvent, hein, au moins dans notre Église, on dit à cette époque, c'était comme ça. Mais qu'est-ce qu'on est en train de faire maintenant? Et qu'est-ce que nous devrions faire maintenant? Il dit que je me lèverai, j'irai vers mon père. La reconnaissance dans son cœur de sa faute grave. Ici, il comprend qu'il a commis une faute très grave par rapport à son père. Regardez le verset 18, je continue. Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je péchais contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils, traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Vous savez, quand il a demandé sa part, quand il a quitté la maison, il avait déjà médité cette idée, médité cette pensée qu'il avait depuis peut-être quelques jours, et il a quitté, il a pris sa part, le père il a donné sa part, il a quitté la maison. Mais maintenant, encore, il reconnaît sa faute, reconnaît son erreur, ce qu'il a fait, sa faute grave. Il dit, je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Quand on pêche essentiellement contre le ciel. Je pense que même mardi soir, nous avons médité de ça par rapport à la pardon. Si vous n'êtes pas là, vous êtes en train de perdre de précieux enseignements par rapport à la pardon. Donc, quand on pêche essentiellement, nécessairement contre le ciel, contre Dieu et contre nos prochains. Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Il reconnaît sa position. Il a perdu la position d'être le fils du père. Il a perdu. Il reconnaît. Il dit, traite-moi. Il n'est pas dit à son père encore, mais dans son, il pense ainsi. Il décide de dire ainsi. Il dit, traite-moi comme l'un de tes serviteurs, tes mercenaires. Et maintenant, le verset 20, on voit l'accueil chaleureux de son père. L'accueil chaleureux, ce n'est pas un fils qui mérite cet accueil. Un fils qui ne mérite pas du tout cet accueil. Il était l'humiliation pour son père. Et certainement tout le village ou toute la ville devrait parler de cela. Il a humilié son père. Il a détruit le nom de sa famille dans cette société. Et comment ces choses-là, il a blessé le cœur de son père. Mais on voit que le père, il l'accueille, il accorde un accueil chaleureux. Et le verset 20, et il se leva et alla vers son père, comme il était encore loin. Son père le vit et fut ému de compassion. Il courut, se jeta à son cou et le baisa. Et il se lève, ça c'est le moment crucial. Et il alla vers son père, il fait le chemin. Et souvent on peut penser, on peut avoir de très bonnes pensées, on peut avoir de bonnes intentions, mais il faut se lever. Il faut faire le chemin. Ici, on voit qu'il se leva et alla vers son père. Et on peut imaginer qu'est-ce qu'il est en train de penser pendant le chemin. Pendant tout ce temps-là, qu'est-ce qu'il est en train de penser? Il devrait repentir de ses péchés, son erreur, sa folie. Et comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Et ici, on voit l'image de Dieu dans le caractère de le père. Il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut, se jeter à son cou et le baisa. Plusieurs fois dans l'Évangile, nous lisons que quand Jésus a vu le fou, il était ému de compassion. Il était ému de compassion. Il courut, se jeter à son cou et le baisa. Quand le jeune homme il vient poser la question à Jésus, qu'est-ce qu'il faut faire pour hériter la vie éternelle? Et Jésus il dit ce qu'il faut faire. Et après, le jeune homme, avant qu'il puisse répondre, Jésus, le verset il dit que Jésus le regarda et l'aima. Le regarda et l'aima. Et il fut ému de compassion, il courut se jeter à son cou et le baisa. Je vous pose une question. Est-ce que cet homme, il avait déjà prononcé ce qu'il a, il voulait dire à son père? Il n'a pas dit, il n'a pas dit un mot. Mais le père, il était en train de voir le retour de son fils sur le chemin de retour. Il devrait tous les jours ouvrir la porte ou la fenêtre pour voir est-ce que mon fils ne va pas retourner un jour. Il est parti le chemin, il a pris ce chemin. Est-ce qu'il va retourner? Mais, donc sinon, ce n'est pas possible que le père, il voit de loin, il vient, il court. Mais apparemment, à cette époque, dans la culture du Moyen-Orient, les hommes de cette statue, hein, certaines statues, ce n'est pas digne de courir ainsi devant la société. Mais le père, il a tout oublié. Il court pour aller accueillir son fils perdu, fils prodigue. Et tel est l'accueil que le Seigneur nous a accordé. Nous sommes, on peut nous mettre tous dans cette situation, cette position, cette image de ce fils prodigue. Le Père, il accorde un tel accueil pour nous tous, mais chacun, on sait de où on vient. On vient de loin, chacun. Mais le Père, il attendait qu'on revienne vers lui. Le Père, il attendait que nous venions à lui un jour. Et le verset 28, ça montre le mécontentement de son frère. Regardez l'attitude de son grand frère. Et le verset 28, il se mit en colère et ne voulut pas rentrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Et pourtant, il était dans la maison de son père. Et ce que le père il dit, fait dans le verset 22, il investit ses droits d'auparavant. Le droit d'être fils. Mais lui, il a demandé d'être un serviteur. Mais le père, il dit que non, tu es mon fils. Et il dit dans le verset 22, mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Le banquet, le sacrifice de gravo. Amenez le veau gras et tuez-le, mangeons et réjouissons-nous. Nous trouvons trois personnages dans cette parabole, n'est-ce pas? Le Père, qui représente Dieu, l'image de Dieu. Le Fils cadet, c'est le pécheur. Le Fils aîné, il représente le pharisien et le scribe. Regardez, on va regarder en Luc 18, hein. Quelle était l'attitude des pharisiens et les scribes? Luc chapitre 18. Verset 9 à 13. Il dit encore cette parabole en vue de certaines personnes se persuadant qu'elle était juste et ne faisait aucun cas des autres. Deux hommes montrèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien, debout, priait ainsi en lui-même, « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas, comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères ou même comme ce publicain. » Je jeûne deux fois par semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. Le publicain, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel. Mais il se frappait la poitrine en disant, « Ô Dieu, sois apaisé envers moi, qui je suis un pécheur. » Vous ne voyez pas cette image de ces deux hommes dans ces personnages? Le fils cadet et le fils aîné. Le fils prodigue prend le risque d'émanciper et veut gagner sa liberté. Attiré par le péché le plus grave, est sorti tout seul en dehors. Le père, plein d'amour, sans limite pour les deux fils, il était un homme riche. Le fils aîné, jaloux, mécontent, toujours à faire des reproches. Le trois types de prodigues. Le fils prodigue qui est représentant le mauvais gaspillage, prodigalité de son bien, il est sauvé de dehors, pas par un procès de conscience. Dieu ne l'a pas oublié et envoyé à la famine qui l'a déterminé d'entrer en lui-même, ce que dit la parole, pour prendre le chemin de retour vers l'intérieur, d'où il est sorti par lui-même pour vivre sa liberté. Il n'a jamais eu un vrai processus de repentance envers son père. Il a esquissé dans sa tête un début de repentance. Mais n'oublions pas que la vraie repentance comporte quatre étapes. Il n'a parcouru que la première, le fils prodigue. Et selon le théologien, les quatre étapes de la repentance sont reconnaissance de la faute commise. Alors, premièrement, la reconnaissance de la faute commise, le péché, reconnaissance du péché. Et deuxièmement, exprimer le regret pour le péché en cause. Est-ce que nous avons le regret pour le péché que nous avons commis? Ou ça passe inaperçu? Et troisièmement, demander pardon à celui devant lequel il a péché. Et quatrièmement, prendre l'engagement de ne plus reproduire le péché pardonné. De plus reproduire le péché pardonné. Le fils aîné prodigue de sa mauvaise sagesse, jalousie, rancune. Les théologiens ont l'appelé Monsieur Respectabilité. Quelqu'un très respectueux, quelqu'un qui est respecté. Ou Monsieur Comptabilité, il garde tout le compte, hein. Il garde le compte correctement envers tout le monde. Ou un fonctionnaire de la performance rentable. En plus, c'est un menteur. En disant que son père ne lui a pas donné même un chèvre pour se réjouir avec ses amis. Mais dans le verset 12, on voit bien qu'il était bénéficiaire comme son frère de la moitié de la fortune parentale. Parce que le verset, on voit que le père le partagea son bien. Mais il dit ici que tu ne m'as même pas donné un chevreau. Et le père, on peut dire, père prodigue, le caractère de son amour, il est sans mesure. Il dépense son amour, sa grâce envers ses deux enfants. Il pardonne et restaure son fils qui était mort et qui est revenu à la vie. Il fait plus que de la pardonner. Sans que son fils fasse vrai acte de repentance. Le père n'est pas attendu que le fils il prononce ses paroles, son pardon. Il vient, il prend, il accueille son fils. Le symbole utilisé dans la parabole de leur et leur interprétation, la plus belle robe. Le père appelle ses serviteurs, dit « Amène la plus belle robe et habille mon fils ». On peut imaginer ce garçon comment il était. Il était avec les pourceaux. Hein. Donc il devrait être sale, n'est-ce pas? Mais le père, il demande la plus belle robe pour son fils. Mais ce n'est pas l'image que nous avons chantée tout à l'heure, vêtu de Christ. C'est le père qui nous habille. Nous sommes vêtus par Christ. Par la justice de Dieu. Et l'anneau au doigt, ça montre l'autorité de la famille. C'est quelqu'un de la famille, une alliance. Et tout le monde portait pas un anneau. Tout le monde portait pas un anneau. Le serviteur, il portait pas un anneau. Mais le père, il met l'anneau sur son doigt et les souliers aux pieds. Il paraît qu'à cette époque, les serviteurs ne portaient pas les chaussures. Seulement, les gens de la maison, ils ont le droit de porter les chaussures dans la maison. Et c'est ainsi que le père, il accueille son fils qui revient. Ce matin, chacun de nous se retrouve certainement reflété par le caractère de ses deux fils. soit comme le fils cadet qui a laissé son père et est parti pour un pays lointain, soit à la place du frère aîné qui a resté à la maison avec son père, mais qui vit une vie éloignée de son père. Soit on devrait appartenir à cette image ou à l'autre. Tous deux vivaient loin de leur père. Tous deux ont dû se repentir. Les deux avaient besoin de pardon de leur père. Les deux, ils avaient besoin de leur pardon. Pensez indépendamment de Dieu, d'être indépendant de Dieu entraînait certainement la corruption morale et spirituelle. Si le moment qu'on pense qu'on veut agir indépendamment de Dieu, on veut agir avec notre propre sagesse, notre propre intelligence, et la corruption morale et spirituelle, elle commence là. Cela nous éloigne de Dieu. Et ce que Isaïe a dit dans son livre 53:6, nous étions tous errants comme les brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui, sur Jésus, l'iniquité de nous tous. L'absence de Dieu qui résulte de la dérive laisse en nous un vide spirituel que les plaisirs mondains ne peuvent satisfaire. Quand on enlève Dieu de notre vie, des autres plaisirs mondains vont certainement occuper notre vie. On devrait demander pour combien de temps et à quel prix. À quel prix qu'on veut échanger la grâce de Dieu et l'amour du Père pour ces choses mondaines. Jérémie 2, 13, il dit, car mon peuple a commis un double péché. Ils m'ont abandonné, moi qui suis une source de l'eau vive, pour se creuser des citernes crevassées qui ne retiennent pas de l'eau. Car mon peuple a commis un double péché. Premièrement, ils ont abandonné Dieu. Il m'a abandonné. Moi qui suis une source d'eau vive. Mais dans la langue tamoule, il y a un proverbe. Quand on a le beurre dans la main, pourquoi chercher l'huile de beurre clarifiée ailleurs? Mais je ne sais pas, vous comprenez ou pas, mais on abandonne la source de l'eau vive. Et ce qu'ils font, pour se creuser des citernes crevassées qui ne retiennent pas, pas l'eau. Plus nous luttons pour nous satisfaire, plus nous sombrons dans les conditions personnelles dégradantes. Et Apocalypse 3, 17, parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien, et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Et on peut avoir cette pensée dans notre cœur quand on veut éloigner de Dieu, parce qu'on on voit des verts pâturages ailleurs. On peut avoir cette pensée. Mais le Seigneur il dit en Apocalypse 3, 17, « Parce que tu dis, je suis riche, je suis enrichi et je n'ai besoin de rien, et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. » Notre société parle souvent, souvent d'être autonome, autosuffisante. Lorsque nous examinons certains types de soi-disant droits de l'homme, même dans notre pays, nous comprenons qu'il s'agit en fait de désirs pécheurs qui contredisent la loi de Dieu. Et droit de l'homme, c'est bien, mais tout le droit de l'homme, ça ne va pas avec la loi de Dieu. Ça va parfois contre la loi de Dieu. Je ne dis pas que la pensée de la liberté est mauvaise. Il y a des saisons et des raisons dans la vie pour lesquelles nous devons penser et prendre des décisions, indépendamment de nos parents, de nos dirigeants, de nos enfants. Mais il n'y a aucune excuse pour penser indépendamment de Dieu, comme le fils prodigue dans cette parabole. Une vie indépendante de Dieu est en fait une vie séparée de son amour, de sa communion fraternelle, de sa communion et de son autorité. En effet, la véritable indépendance ne vient que lorsque nous abandonnons totalement et volontairement à sa volonté. Dieu nous aime et il veut nous libérer de nos chaînes d'esclavage. On peut être dans la présence de Dieu, dans l'Église, et pourtant être enchaîné par les chaînes d'esclavage. Mais il faut savoir que l'abandon à Dieu apporte la vraie liberté et pas d'esclavage. On peut penser que peut-être le Père, il aurait pu s'épargner de lui, à lui-même et son fils, beaucoup d'ennuis s'il n'avait pas divisé sa fortune quand le fils l'a demandé. Il n'avait pas permis au fils d'éloigner de sa maison. Mais il voulait que le fils prodigue apprenne trois leçons importantes. Le père voulait que le fils prodigue cultive une attitude humble pour que le fils prodigue sache que les conséquences suivront ses actions. Parfois, Dieu nous laisse faire certaines choses. Parfois, Dieu nous laisse faire certaines choses. Vous voulez chercher le monde? Dieu nous laisse, comme parfois on tient un chien dans le laisse, on laisse courir, mais pour certains temps. Après, on sert. Le vrai bonheur ne réside pas dans le fait d'avoir les choses du monde. Le fils prodigue et le père ont payé le prix élevé pour ces trois leçons, mais cela en valait la peine. Dieu est le même, mais Adam et Ève, ils savaient qu'ils ne devraient pas éloigner de Dieu, mais ils sont pourtant aventurés et nous connaissons leurs conséquences. Dieu est le même, il permet à ses enfants de s'éloigner pendant une saison parce qu'il n'est pas un maître d'esclaves cruel ou un tyran qui utilise la force brute pour nous forcer à nous soumettre. Il n'essaie pas de briser notre volonté, mais il nous attire à lui afin que nous puissions à lui offrir librement. La réaction du Père au retour du Fils prodigue révèle des caractéristiques importantes de Dieu. Il était rempli de compassion. Le Père, on voit le Père rempli de compassion, indique que notre Dieu est compatissant pour les perdus. Il ordonna au serviteur de mettre la plus belle robe sur son fils. Dieu habille les pécheurs qui viennent à lui avec les robes de sa justice. Isaïe 61:10, il dit, « Je me réjouirai en l'Éternel, mon âme sera ravie d'allégresse en mon Dieu, car il m'a revêtu des vêtements de salut. Il m'a couvert du manteau de la délivrance. » C'est beau cette image. Dieu nous couvre du manteau de la délivrance. Il m'a revêtu des vêtements de salut. Il a ordonné à ses serviteurs de mettre une bague au doigt de son fils qui était un symbole d'acceptation par la famille. Dieu traite les gens qui reviennent à lui comme ses fils plutôt que comme ses serviteurs. Mais le fils, il voulait la position d'un serviteur, mais Dieu le traite comme son fils, car il était toujours le fils. Pour le fils, le père n'était pas le père quand il voulait quitter le père. Mais pour Dieu, le fils prodigue, même s'il est parti loin, il était toujours le fils. Il ordonna au serviteur de mettre des sandales aux pieds de son fils. Seul un homme libre les portait. Les pécheurs qui viennent à Dieu trouvent la liberté éternelle. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Jean 8:32. Il ordonna au serviteur de tuer le veau gras pour nous sauver. Dieu n'épargna rien, pas même son fils. Vous savez, Jean 3, 16, il dit, car Dieu, il a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais revenons vers les trois paraboles. Une brebis, une brebis perdue parmi les 100, un drachme perdu parmi les 10, et le fils prodigue, c'est 1/2, mais Dieu avait un seul fils, son fils unique. Il a donné son fils unique pour nous sauver, n'est-ce pas? Il a donné son fils unique. Dieu l'a tout donné pour nous sauver. La culture juive ne permet pas d'attendre le retour des enfants rebelles. S'ils reviennent, ils doivent être accueillis et traités comme des esclaves pour le reste de leur vie. C'est pour cette raison que le fils prodigue a demandé à son père de le recevoir comme serviteur. Il savait très bien ce qu'il attendait. Le fils prodigue, il savait qu'il ne peut pas redemander la position du fils. Mais voyez ce que le père il a réservé pour son fils. Mais cette parabole montre que Dieu est plus que heureux de recevoir et accueillir les pécheurs avec son pardon. L'amour, la compassion, la grâce et le plein droit des enfants s'ils reviennent à lui sincèrement. La miséricorde, il accorda une deuxième chance pour ce fils prodigue. Et la grâce a fait un grand banquet pour la célébration. Quel merveilleux Dieu que nous avons, qui nous accueille malgré notre état. Nous avons tous passé par des chemins incroyables, n'est-ce pas? Et chacun, nous sommes des témoignages vivants. Nous sommes des témoins vivants pour ce qu'il a fait. Dieu nous a fait ses enfants. Nous avons ce privilège d'être des enfants de Dieu. Mais parfois, on dit uniquement que nous sommes les enfants de Dieu. On oublie qu'on est des serviteurs de Dieu. On est des serviteurs de Dieu. Dieu nous donne cette position d'enfant, mais ce qu'il devrait faire, cet fils prodigue, il devrait servir son père jusqu'à la fin de ce séjour. Et nous aussi. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Prions. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous te remercions pour cette parabole qui est placée pour notre enseignement. Seigneur, tu as voulu enseigner ces pharisiens et des scribes, Seigneur, mais nous aussi, nous pouvons avoir cette attitude, cette pensée dans notre cœur quand un pécheur, il répond. Pardonne-nous. Seigneur, aide-nous à avoir la même pensée comme notre Père Céleste est là. Seigneur, nous étions tous comme des fils prodigues. Nous étions loin de toi. Nous avons péché contre toi. Nous avons gaspillé les dons que tu nous as donnés. Mais Seigneur, quand nous avons revenu vers toi, tu nous as accueillis et tu nous as fait tes enfants. Tu nous as revêtus par des vêtements de salut. Seigneur, merci pour ce grand privilège d'être tes enfants. Seigneur, merci, comme c'était dit, que tu vas nous accueillir encore dans le ciel, car tu nous as réservé une place. Seigneur, aide-nous à se conduire comme tes enfants, dignes de ton nom et dignes de ce salut. Seigneur, merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Aide-nous à vivre avec reconnaissance de le reste de notre vie. Comme nous avons chanté, comment te dire merci pour tout ce que tu as fait pour moi. À lui soit la gloire, gloire éternellement. Au nom de notre Seigneur, notre Sauveur Jésus-Christ, nous prions et pour ta seule gloire. Amen.